Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
À l'occasion de l'exposition Culture et christianisme d'Éthiopie à Toulouse les 27 et 28 septembre prochains, nous nous intéressons aujourd'hui à ce pays. Plus de 62% de la population éthiopienne est chrétienne et la présence de cette religion dure depuis 16 siècles. Elle est le plus vieux christianisme d'Afrique. Découverte de ces communautés chrétiennes aujourd'hui dans Vivante Église. Et pour nous présenter les communautés chrétiennes d'Éthiopie, nous sommes avec Mesfin Teklemariam de la communauté apostolique éthiopienne Tewa Edo Saint-Michel Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
À vos côtés, Olivier Carrero, sacristain de l'église Sainte-Marguerite, où est hébergée cette communauté éthiopienne. À Blagnac, bonjour.
Bonjour.
Et enfin, Pierre Blanchard, délégué du diocèse de Toulouse pour l'œuvre d'Orient, association qui soutient 28 communautés chrétiennes d'Éthiopie. Bonjour.
Bonjour.
Je vous propose de commencer cette émission par une brève présentation des communautés chrétiennes d'Éthiopie. Mesfin Teklemariam, comment le christianisme est-il parvenu en Éthiopie ?
Alors, dans le rite éthiopien, le christianisme est arrivé, donc, comme l'est cité sur l'Acte des Apôtres, chapitre 8, verset 1. L'eunuque qui a fait le voyage à Jérusalem, donc il est revenu baptisé par l'apôtre Philippe, et il a commencé ses œuvres d'enseigner l'évangile. Donc le christianisme en elle-même est arrivé donc à l'an 34, donc une année après la crucifixion, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le christianisme est reconnu donc religion de l'État beaucoup plus tard, au 4e siècle, avec l'arrivée donc des neuf saints, avec l'arrivée donc de beaucoup de saints, donc de beaucoup de réfugiés donc de l'Empire romain. Et c'est là que ça a pris une ampleur et qui est devenu religion d'État.
Oui. Parce que le roi d'Éthiopie était lui-même chrétien ?
Alors, le roi d'Éthiopie, avant d'arriver donc le christianisme, l'Éthiopie était dans le judaïsme. Donc, ce qui le fait donc l'Éthiopie l'unique pays qui a accepté le judaïsme et par la suite le christianisme. Parce qu'avant, donc, ce qui explique l'arrivée de l'eunuque à Jérusalem, on était dans le judaïsme, donc on faisait ces pèlerinages régulièrement, y compris les pouvoirs, les empereurs, ils partaient donc à Jérusalem pour faire leur pèlerinage. Donc, avec l'arrivée donc du christianisme, on n'a pas eu beaucoup de problèmes de passer de judaïsme au christianisme.
Oui, c'est la suite logique, on
bien
va
sûr,
dire. Oui. Pierre Blanchard, qu'en est-il de la communauté catholique en Éthiopie ?
Alors, c'est une petite communauté qui représente à peu près 1% des chrétiens, qui est relativement récente puisqu'elle est arrivée par des jésuites, puis par des franciscains.
Donc des missions.
Oui, des missionnaires. Elle a été créée véritablement en 1961. Voilà. Donc elle est relativement récente. Et dans chez les catholiques éthiopiens, il y a deux rites. Il y a le rite Gaze, qui est le même que le rite de l'église Tewa Edo, et des latins. Par exemple, j'avais rencontré l'évêque d'Harar, qui a 40 000 catholiques, mais sur une surface qui est grande comme l'Italie. Vous voyez, donc,
ils sont bien dispersés.
C'est quand même minoritaire. Mm. Et puis, mais les liens entre l'Église catholique et le patriarche sont bonnes. Enfin, sont bons. Ces liens sont attestés par des coopérations entre le patriarche et différentes œuvres catholiques.
Mmh. Si on revient sur ce rite, donc le rite oriental Gaze et le rite latin, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Pierre Blanchard, un peu leurs différences ?
Bah, le rite latin, c'est celui que nous avons ici. Et le rite Gaze, c'est le rite de l'église éthiopienne.
Qu'est-ce qu'il y a de spécifique ? Peut-être Mesfin peut répondre à cette question.
Alors, l'église éthiopienne, donc orthodoxe Tewa Edo, qui est en sa majorité, a accepté et aussi a coopéré donc, avec l'église catholique romaine pour que les fêtes déjà soient de même date.
Oui, donc elles coïncident.
Voilà, parce que l'Éthiopie a son calendrier, donc le calendrier éthiopien est beaucoup plus différent et plus axé sur l'Église orthodoxe d'Oahelo. Et les catholiques qui fêtent quand même des fêtes religieuses et ils le fêtent avec nous, avec donc, le reste des Éthiopiens, ils ne tiennent pas compte donc, de calendrier qui est occidental, qui existe ici. Donc ce qui permet déjà de mettre un pied à l'étrier donc, pour rassembler, pour regrouper donc, un maximum de monde. Et ces catholiques donc éthiopiens, ils utilisent donc la langue éthiopienne donc de l'Église orthodoxe d'Oahelo, qui est le Gez, qui est l'ancien donc l'origine des langues amhariques, tigréennes ou d'autres, qui est à l'origine donc de cette qui vaut à peu près donc le latin d'ici.
D'accord.
Et donc les églises catholiques, d'une partie, ils utilisent cette langue pour célébrer leur messe.
D'accord. Pierre Blanchard.
Et d'ailleurs, moi j'ai assisté à Timkat avec l'église Tewahedo. Ils étaient 500 000 à Addis Abeba pour fêter Timkat. Et j'ai assisté à Timkat dans l'église catholique... catholique éthiopienne. C'était la même ferveur, c'était la même joie.
La fête de Timkat, c'est la fête d'Épiphanie, donc la fête sur laquelle on célèbre le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vrai, cette fête ne rassemble pas que les chrétiens. Et au-delà, il y a les musulmans, il y a les chrétiens, il y a même ceux qui n'ont pas de religion, ils viennent. C'est un moment d'échange, c'est une fête donc, à l'air libre, donc on commémore le voyage que Christ a fait donc, de Galilée à Jourdain. Donc toutes les églises avec les servants, avec le tabot, donc les répliques de l'Arc de l'Alliance, ont fait ce voyage de chaque église à un endroit, un point d'eau, pour célébrer, donc pour commémorer le voyage que Christ a fait. Et puis, dans ce voyage-là, il n'y avait pas que Christ et les siens qui ont fait le voyage, il y avait tout le monde, tous les gens qui ont voyagé. Donc, on le vit, cette tradition-là. Donc, la fête de Timkat, c'est vrai, elle rassemble pas mal de gens, comme la fête de Mesqal d'ailleurs.
On en parlera plus tard. Mesfin Tekle Mariam, est-ce que vous pouvez nous présenter l'église orthodoxe d'Éthiopie? Comment elle fonctionne et puis,
L'église orthodoxe, merci de la question, même si je ne suis pas vraiment la personne adéquate pour la représenter.
Mais vous en faites partie.
J'en fais partie, je suis honoré. Et c'est vrai, il y a le Saint-Synode donc, qui réside à Addis Ababa, donc, qui est le souverain donc, de cette église. Et ce Saint-Synode est représenté par le patriarche, donc actuellement c'est le Saint Abuna Matthias, comme il avait tout à l'heure dit Pierre Blanchard. Et après, il y a des églises, il y a des monastères, il y a l'église éthiopienne. C'est vrai, quand on parle de l'église, on parle vraiment d'Éthiopie, parce qu'elle est ancienne, elle représente pas mal de choses donc, pour le pays. Elle a œuvré donc, pour l'unité, pour la souveraineté d'Éthiopie et ce qui continue aussi actuellement. Et donc la plupart donc des chrétiens éthiopiens ils sont donc fidèles de l'Église orthodoxe éthiopienne. On a plus de 500 000 prêtres, diacres donc qui sont fruits donc de ces enseignements. Et jusqu'à très peu, l'Église elle a quand même été ministre d'éducation du pays. Jusqu'à,
oui, c'est ce que j'allais vous demander. Voilà, parce
jusqu'à,
que...
jusqu'à il n'y a pas très longtemps, l'Église éthiopienne, elle prenait la responsabilité donc, d'être un ministre d'État pour l'enseignement et pour la recherche. Et si on a tous ces savants, si tout on a pu garder donc tout l'enseignement jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce aussi à cette église.
D'accord. Est-ce que cette église d'Éthiopie, elle est aussi engagée dans le soin des personnes, par exemple dans tout ce qui concerne la santé, ou est-ce que c'est plutôt les catholiques qui sont engagés?
On a eu l'occasion d'évoquer, c'est vrai, l'église catholique, elle est à et s'implique quand même pas mal donc, dans la vie quotidienne donc, des Éthiopiens. Mais quand on représente l'Église orthodoxe, c'est vrai, on voit plus le spirituel, donc on n'est pas dans le comptable, on n'est pas dans le comptage, donc combien de personnes soignées, ainsi de suite. Mais ce qui est réel, ce qu'on vit tous les jours, c'est que quand on voit les églises qui sont remplies, donc des enfants qui sont orphelins, ceux qui sont des retraités, qui n'ont pas de retraite réelle comme on l'entend ici, ils sont soutenus, gardés par l'Église. Et nous avons aussi ce qui est méconnu, peut-être pas des catholiques, mais les eaux bénites qui sont un peu partout autour des églises, qui nous donnent donc des guérisons pour les gens qui sont malades. Que ça soit des chrétiens orthodoxes ou quelle que soit leur foi, il vient, il se lave à ses eaux bénites et il trouve la guérison. Mais ces gens-là, ils ne sont pas comptés, ils ne sont pas nommés. Donc, c'est vrai, on ne l'entend pas. Mais si on assiste, par exemple, à la liturgie chaque dimanche, là où il y a l'eau bénite, il y a des gens qui donnent leur témoignage avec leur maladie qu'ils avaient et leur guérison, et ça, on y croit, et c'est comme ça.
Donc c'est lourde très quotidiennement en Éthiopie, alors.
Oui, lourde, c'est une parmi des milliers qui existent.
Oui. Vous nous avez parlé, Pierre Blanchard, des liens, hein, des relations entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique. Est-ce qu'il y a eu des heurts dans l'histoire, ou est-ce que ça a été toujours
fluide? Si, il y a eu des heurts, parce que les jésuites... Ben, oui. À une époque, les jésuites ont été chassés vers 1660, et ils ont été interdits jusqu'en 1951.
Oui. Et oui. Depuis, les choses se sont
aplanies. Oui. Il y a eu. Si l'Église catholique en 1961 a été acceptée, c'est que les choses se sont calmées. Et moi, je connais, par exemple, des frères de Saint-Jean qui sont très en contact avec le clergé, avec les évêques.
D'accord.
Si je peux me rajouter, cette date qui est vraiment une date très noire donc, dans l'histoire de l'Église orthodoxe éthiopienne, au XVIe, XVIIe siècle, il y avait les missionnaires donc, catholiques qui sont arrivés. Et certes, à l'époque, on avait des problèmes d'invasion donc, qui venaient un peu de pays arabes. Donc, géographiquement, l'Éthiopie est entourée par des pays qui sont musulmans. Régulièrement, on a des interférences qui sont là pour déstabiliser le pays. Donc, l'Église orthodoxe, elle a toujours tenu debout. Elle a toujours rassemblé donc, le monde. Et cette fois-ci, donc, c'était les chrétiens qui sont arrivés, donc nous, les chrétiens donc, de l'époque, les chrétiens comme nous, et ça, ils ont été acceptés sans problème. Mais ils sont arrivés donc, à tordre un peu la main de l'empereur de l'époque, à forcer que le catholicisme soit l'église de l'État,
la religion de
l'État. Plus
d'accord.
Et donc ça a créé un malentendu et qu'il y avait en une journée plus de 8000 personnes qui ont été massacrées. Donc ça a été compliqué. Et depuis cette date-là, donc ils ont rétabli donc l'ordre et ils ont interdit justement donc les troubles fêtards entre guillemets. Et puis jusqu'en 1951, tout étranger qui se revendique chrétien. Il doit d'abord vérifier donc sa venue, et c'était interdit. Donc en 1951, parce qu'il y avait l'empereur Haïlé Sélassié quand même qui avait fait le voyage donc aux quatre coins du monde et qui a autorisé plus librement, et il y a aussi l'indépendance donc de l'Église orthodoxe qui dépendait à l'époque jusqu'à 1958 réellement d'Alexandrie. Et elle est devenue donc indépendante, a pu nommer son patriarcat et a donné donc de visa ou d'autorisation de rentrée pour chaque chrétien ou des missionnaires qui voulaient venir en Éthiopie.
D'accord, donc maintenant les choses sont apaisées et voilà, et maintenant la paix est revenue. Tout récemment, là, le 9 septembre, a été inauguré le grand barrage sur le Nil. Il y a quand même eu 14 ans de travaux hein, qui ont permis de réaliser cet ouvrage. Il va permettre l'électrification du pays. Alors, on sait que l'Égypte regarde un petit peu d'un mauvais œil ce chantier, mais qu'est-ce que ce chantier nous dit de l'Éthiopie, Mesfin Tekle Mariam ?
Alors, ce chantier, ça a été pensé, voulu par les différents empereurs, États qui ont succédé donc l'État actuel. Et ça a même été commencé par un premier ministre qui est décédé, donc il y a paix à son âme. Donc c'est quelque chose qui économiquement qui nous reliait donc aux pays qui sont tributaires donc de Nil, mais quand on regarde physiquement le Nil est composé donc de Nil blanc et de Nil bleu. Le Nil bleu partant d'Éthiopie donc il est quand même tributaire de 85% de teneur d'eau qui arrive à Khartoum. Donc les deux Nils ils se rejoignent à Khartoum, capitale de Soudan. Et c'est après que ça arrive en Égypte.
Oui.
Et nous, ce qu'on avait action, ce qu'on pouvait faire, c'est sur ce Nil qui partait d'Éthiopie, qui alimentait donc le Grand Nil qui se rejoignait à Khartoum. Donc les Égyptiens, ils ont toujours voulu se mettre donc à travers donc, ce projet-là, et, par des actions visibles ou invisibles. Et là, cette fois-ci, bon, il y a eu quand même, on a pu régler donc, les problèmes internes qu'il y avait pour pouvoir se concentrer donc, sur ces travaux-là. Et le travail a commencé. Donc, même depuis le début des travaux, il y a quand même eu pas mal de choses qui sont arrivées, qui ne sont pas connues du grand public. Mais on a tenu bon. Tous les Éthiopiens se sont mobilisés. Tous les fonctionnaires ont donné pratiquement ce qu'ils pouvaient de leur salaire. Et cet barrage est arrivé à terme. Donc, ça permet non seulement pour les Éthiopiens, mais aussi pour ceux qui sont autour. Et on a besoin d'utiliser nos ressources, c'est légitime. Et on comprend donc la position égyptienne aussi, qui sont dépendants donc de Nil, de l'eau de Nil. Mais on pouvait quand même utiliser cette ressource à bon escient et ce qui est fait actuellement.
Oui, c'est ça. En tout cas, une grande fierté pour l'Éthiopie. Hein.
Bien sûr.
Moi, je voudrais donner deux chiffres. La puissance installée du barrage, c'est 5200 mégawatts, ce qui représente 4 tranches nucléaires des plus importantes qu'on connaisse.
Ah, c'est pas négligeable. Hein?
Non.
D'accord.
C'est important et c'est un barrage qui a été conçu, qui a été réfléchi et qui a été rempli donc sur 4 années. Donc là, on est à sa pleine puissance. Et on a essayé quand même pour sauvegarder la biodiversité et pour justement pour les gens qui utilisent qui ont besoin de cette eau, on n'a pas ils n'ont pas arrêté les travaux pour remplir de suite. Donc ça
s'est fait progressivement.
Mmh. Et donc là on est arrivé au bout et c'est vraiment une fierté.
Oui, bien sûr. Une autre fierté, c'est ce sommet africain sur le climat qui s'est tenu à Addis Abeba du 8 au 10 septembre dernier. Il y avait quand même 40 chefs d'État africains qui se sont rassemblés. Et c'est vrai que les conférences épiscopales d'Afrique ont indiqué que l'Afrique subit des impacts disproportionnés, des sécheresses, des cyclones, des inondations et aussi de la désertification, alors qu'elle contribue le moins aux émissions mondiale. Donc là, il y a quand même un point qui a été tapé sur la table.
Bien sûr. Après, bon, qu'on ait plusieurs dizaines de chefs d'État à Addis Ababa, en Éthiopie, c'est normal, parce que c'est la capitale d'Éthiopie, c'est la capitale d'Afrique. C'est là où se trouve donc, le bureau donc, de l'Union africaine. Elle est considérée capitale d'Afrique. Donc régulièrement, quand il y a des sommets, tous les chefs d'État africains se retrouvent en Éthiopie. Et c'est vrai qu'ils se retrouvent pour l'écologie, c'est une chose, mais après, il faut qu'ils se mettent quand même un peu au travail et qu'ils œuvrent un peu pour la sauvegarde donc, de biodiversité. Et puis, c'est vrai, le discours et les travaux qui sont effectués, il y a un décalage, à mon goût, donc ça n'engage qu'à moi. Mais il y a quand même beaucoup à faire sur cet aspect-là.
Oui, il ne suffit pas de dire que l'Éthiopie est victime d'un certain nombre d'action des autres pays et notamment de l'hémisphère nord, mais il faut aussi prendre sa part.
Bien sûr,
oui,
bien sûr.
C'est ça.
Que pas que les Éthiopiens, mais toute l'Afrique. Mmh. Quand on accepte certaines choses, quand on accepte d'être un peu la poubelle du monde entier, c'est vrai, c'est y a sa responsabilité qu'il faut engager.
Oui, bien sûr.
Mais oui, c'est déjà un bon point qu'ils se réunissent pour l'écologie, je reconnais.
Vous nous avez présenté l'Éthiopie et ses différentes communautés chrétiennes. Je vous propose de marquer une pause et vous nous présenterez juste après votre communauté chrétienne d'Éthiopie à Toulouse, hein, qui est hébergée depuis 2019 à l'église Sainte-Marguerite, enfin c'est à Tablagnac d'ailleurs. Et puis nous nous retrouvons et nous parlerons aussi de cette exposition intitulée « Culture et christianisme d'Éthiopie » qui aura lieu donc, les 27 et 28 septembre. Je vous propose d'écouter « Benvegelu Yamenachu », une chanson typiquement, enfin une chanson éthiopienne. Présence.
Isabelle Duché.
Nous parlons de l'Éthiopie aujourd'hui et de ses communautés chrétiennes et nous sommes avec Mesfin Tekle Mariam de la communauté apostolique éthiopienne. Tewado Saint-Michel Ablagnac, Olivier Carrero, membre de l'équipe d'animation pastorale et sacristain de l'église Sainte-Marguerite Ablagnac, et Pierre Blanchard, délégué du diocèse de Toulouse pour l'œuvre d'Orient. Olivier Carrero, c'est à vous maintenant, je vous donne la parole. Vous êtes donc membre de l'EAP, de cette paroisse Sainte-Marguerite, et vous avez participé à l'accueil de la communauté éthiopienne en 2019. Depuis, vous avez tissé des liens. Comment cette amitié vous bouscule dans votre foi?
Ah, c'est beaucoup dire. Oui, c'est le père Jean-Jacques Rouchy, il y a quelques années, en 2019, puisqu'il est le délégué épiscopal des relations interreligieuses, qui a permis à la communauté éthiopienne orthodoxe de Toulouse, ils étaient, je crois, à Saint-Nicolas, de l'église orthodoxe, mais c'était trop petit, donc il a été proposé qu'ils viennent assurer leur sainte liturgie le dimanche matin, étant entendu que nous, notre messe catholique est le samedi soir anticipé. Donc au fur et à mesure des années, eh bien, comment dire, on les voyait, tous ces grands, enfin, ce rassemblement de femmes, d'enfants.
Avec leur tenue traditionnelle.
On était là dans ce châle rituel merveilleux. Il se trouve que moi-même, sacristain, j'habite à 80 mètres de l'église, donc j'entendais la nuit, lors des grandes fêtes religieuses, le son typique, le son des tambourins, le kessis, qui est le nom orthodoxe de leur prêtre, psalmodier avec le micro, un peu sur le mode, je pensais qu'il y a un muezzin dans le quartier ou quelque chose comme ça, vous voyez, donc, avec cette voix typiquement africaine ou orientale, je ne sais pas, cette mélopée, voilà. C'était très intriguant et du reste, je crois que quand ils se réunissent le dimanche matin, les gens du quartier s'arrêtent un peu parce qu'il y a vraiment une bouffée d'exotisme. C'est peut-être un peu extérieur au début et puis finalement on s'est rapproché jusqu'à ce que cet été, par exemple, culmine notre harmonie spirituelle, hein, puisqu'on a ensemble rebâti de fond en comble notre sacristie, hein, qui en avait bien besoin. Et c'est grâce vraiment au dévouement, au talent aussi bricoleur de nos amis éthiopiens, ils sont nombreux, ils sont jeunes, ils sont brillants, qu'on a pu reconstituer cette sacristie, qui est aujourd'hui, je pense, une rareté en France, puisqu'elle est œcuménique. On a un mur de gauche catholique. Nous avons gardé notre vieille armoire boisée avec calice, patène, et etc.
Et les chasubles,
voilà, et les aubes, etc. Et au mur, le pape Léon XIV et l'icône de Sainte Marguerite, d'une des Saintes Marguerites. Il y en a beaucoup dans l'histoire sainte. Et en face, dorénavant, depuis septembre, un mur éthiopien avec un meuble Ikea, typiquement éthiopien, où ils peuvent mettre l'ensemble de leurs objets, qui sont bien plus nombreux que nous. Leur liturgie est bien plus riche, bien plus multicolore. C'est vraiment remarquable. Et ils vont mettre bientôt l'archange Gabriel, sous la tutelle duquel leur communauté est placée. Eux, ce n'est pas l'église Saint-Michel, Sainte-Marguerite pour eux, c'est l'église Saint-Michel d'une certaine façon.
D'accord, donc c'est l'archange Michel, pas Gabriel.
Oui, Saint-Michel, d'accord. J'ai dit Gabriel, pardon.
Oui, peu importe.
Excusez-moi, voilà, Saint-Michel, pardon. Et entre les deux, un mur commun, avec une petite table, etc., où il y aura notre prêtre le samedi soir et leur prêtre le dimanche matin, qui alterne avec, au mur, notre trésor commun, c'est-à-dire la Vierge Marie et Jésus. Donc, c'est vraiment, réellement, physiquement, spatialement, une sacristie œcuménique
interconfessionnelle. Et au point de vue des communautés, justement, la communauté catholique et la communauté orthodoxe, est-ce qu'il y a des liens indépendamment de cette sacristie ?
Alors, elle est, naissante, cette amitié entre nous. On se connaît petit à petit, il faut du temps. Vous savez, le processus interculturel, ça ne se fait pas en claquant dans les dents. Moi, je peux dire, moi-même, avec mon binôme Annie, nous sommes maintenant bien impliqués, oui, dans cette amitié. Et c'est vrai que ça a bousculé, comme vous le disiez à l'instant, ma foi, sur des tout petits détails. Hein, mais c'est comme ça que ça se passe, l'amitié, hein, sur des détails. Je ne sais pas,
est-ce que je
peux donner un exemple ou deux. On est maintenant invité, ensuite, à la fin de leur sainte liturgie, ils mangent ensemble. Nous rentrons chacun chez nous, catholiques, manger notre rôti de façon individuelle. Eux se retrouvent pendant des heures à manger ensemble, à partager le repas, sous forme d'une sorte de galette qui est une espèce d'hostie aussi. Hein. Et ça y est, on a eu de la promotion, là, on a le droit de venir y assister.
Vous êtes invité au déjeuner.
Et on en est très très heureux, on a raté ça pour rien au monde maintenant le dimanche. Et pendant qu'on mange ces galettes au milieu de ces gens délicieux, je tiens à le dire, ce sont des gens vraiment délicieux, d'une douceur, d'une paix, d'une piété vraiment remarquable, on voit d'un coup un enfant arrêter l'intégralité du repas, tout le monde se lever comme un seul homme, et c'est l'enfant qui dirige la prière. C'est-à-dire qu'il s'adresse au caissis, au prêtre, qui lui répond seulement. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment pris au sérieux le fait que laissez venir à moi les petits-enfants, ils seront les premiers au royaume de Dieu. Vous voyez, ce genre de choses.
Oui, c'est très concret.
Ah oui, c'est vraiment très beau. Autre petit exemple, on les voit arriver, entrant dans notre église, en se prosternant trois fois, en embrassant les battants de la porte de l'église. Alors que nous entrons là comme dans un lieu, je ne dirais pas exactement neutre, mais quand même comme un simplement...
Parfois avec un manque de respect.
Oui, et puis un habitacle simplement d'une chose qui est importante pour nous, bien sûr, qui est le tabernacle. Mais le reste de l'église, je dirais, elle est sacrée de façon indirecte. Alors que pour eux, ils la saluent directement et... Alors j'ai fini, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, d'ébruiter le secret, mais j'ai fini par lui demander « Mais qu'est-ce que vous dites ?» Ces trois fois-là. Eh bien, ils saluent littéralement l'église elle-même. Il la tutoie, ma petite église, merci de m'accueillir, etc. Puis prosternation. Deuxièmement, ma petite église, tu es l'image sur terre de la Jérusalem céleste. Nous te remercions de nous accueillir. Et troisièmement, ma petite église, tu es le trône de la Sainte Trinité. Autrement dit, alors moi, ce n'est pas les formules liturgiques ou religieuses elles-mêmes qui me touchent spécialement. Je reste catholique. Mais c'est le fait qu'il tutoie mon église. J'aurais jamais songé à tutoyer mon église. C'est une âme. C'est une présence.
C'est une personne, en fait.
C'est une personne.
Vous voyez l'église comme une personne.
Ouais. Oui, c'est à ce genre de choses. Alors, je ne dis pas que je le fais maintenant, mais un petit peu. Dans mon cœur, je tutoie mon église aussi. Autrement dit, ils ont transformé notre rapport à l'église elle-même.
Oui, c'est intéressant. Voilà. Ouais.
Et c'est cette hospitalité, finalement, qui a un effet de contamination religieuse, si je puis dire. Voilà. Notre curé, Gérard Baptiste, qui a la bonté de les héberger depuis longtemps, dans son édito de ce bulletin trimestriel de septembre, me disait qu'une rentrée, ça ne consiste pas simplement à recommencer, c'est-à-dire à répéter, mais à faire du neuf.
Ah.
Il dit, c'est peut-être l'occasion de faire les choses autrement, de prier autrement, d'écouter autrement, de servir autrement. Eh bien, moi, je peux attester, par l'amitié naissante, mais de plus en plus forte avec Mesfine, par exemple, je peux attester de ce que je fais église autrement, d'avoir la chance de dialoguer avec des chrétiens autres. Mmh. Voilà. Ils sont chrétiens largement autant que moi, d'un christianisme très vénérable, mais ils le font autrement. Comme s'ils accentuaient dans les évangiles des endroits que nous n'avons pas vus. Ils ont un œil pour des choses que nous n'avons pas vues, et peut-être réciproquement.
Et oui, c'est comme ça qu'on s'enrichit. Vous allez célébrer Mesfine Tekle Mariam avec la communauté orthodoxe qui est donc dans cette paroisse Sainte-Marguerite, la fête de Mesquel. De quoi s'agit-il ?
Alors, merci au passage d'Olivier de ce témoignage qui me touche beaucoup. Et alors la fête de Sainte Mesquel, Mesquel ça veut dire la Sainte Croix, donc la croix. Nous célébrons donc cette fête dans l'Église orthodoxe éthiopienne depuis bien très très longtemps. Le retrouver donc la Sainte Croix qui a été enterrée après la crucifixion de Christ, 300 ans après si ma mémoire elle est bonne, donc par Sainte Hélène, qui est mère de Constantinople,
de Constantin,
donc qui a mené une équipe pour retrouver donc cette Sainte Croix. Donc on réplique encore cet événement. Mmh. Et on le fait chaque fois donc à la fin du mois de septembre avec le bûcher rituel qu'elle avait fait de l'époque pour pouvoir voir où est-ce que ça a été enterré. Donc la légende nous explique qu'elle avait organisé un bûcher et elle avait, après la prière, donc elle a allumé. Donc la fumée est allée donc sur là où ça a été enterré, donc c'est cette Sainte Croix. Et suite à ça, elle a fait les travaux et elle a pu trouver donc la Sainte Croix qui a été enterrée depuis bien longtemps. Donc on vénère donc cette fête chaque fin de mois, donc de mois de septembre. Et cette année, donc ça nous a... c'était l'occasion aussi de proposer une exposition en même temps donc, de cette fête, de présenter un peu l'église éthiopienne orthodoxe d'Ohado pour les Toulousains, pour ceux qui peuvent, et aussi à faire honneur donc, à cette fête qui est immense. Oui. Mmh.
Alors justement, vous faites très très bien la liaison. Cette exposition « Culture et christianisme d'Éthiopie », elle est donc visible les samedis 27 et dimanche 28. C'est sur le parvis de l'église Sainte-Marguerite, donc à Blagnac, avenue des Arènes. Est-ce que vous voulez nous la présenter, Olivier Carrero ?
Écoutez, je n'en sais pas encore tout, parce que ce sont des petits cachotiers.
Il y a des surprises.
Ils nous réservent des surprises et... Réciproquement, ils verront bien. Il y aura sur le parvis, plus exactement le grand parking de notre église Sainte-Marguerite, qui se trouve juste en face des arènes romaines, c'est-à-dire un des endroits les plus vieux de Toulouse, quasiment contemporain du Christ, hein, puisque c'était il y a 2000 ans, donc j'y pense souvent quand je passe devant. Il y aura 5 grands barnums, avec à l'intérieur, je crois, des grands écrans qui permettront à une trentaine de leurs jeunes co-religionnaires de venir expliquer aux Français, ils sont français aussi, aux Occidentaux, aux Blancs, qui seront présents, des aspects de la culture éthiopienne, je crois une partie sur l'histoire, qui est très riche, très vénérable, une partie sur leur rite sacré, sur leur enseignement, c'est une grande culture de l'éducation religieuse.
Et oui, c'est ce que disait Mesfine tout à l'heure.
Et puis des animations... une petite initiation à la langue amharique et gaise. Voilà, on va essayer d'apprendre quelques lettres d'un alphabet fort beau et fort complexe. une petite dégustation du café, une cérémonie du café. Vous savez que peut-être que le mot café lui-même est d'origine éthiopienne. Ah. Et c'est moi qui suis un grand amateur. Pour moi, c'est le meilleur café du monde, vraiment, le plus subtil, hein, le plus vraiment merveilleux. Il y aura des chants, de la musique. Leurs jeunes vont tambouriner sur le kebero, c'est comme ça qu'on dit, mon frère. C'est-à-dire un tambour biface avec une petite face étroite qui représente la nature matérielle et terrestre du Christ, et la grande face de l'autre côté, plus large, représente la nature divine du Christ, en sorte que quand le musicien tambourine sur les deux, il met en écho musical la nature, les deux natures les deux du Christ. Les deux natures du Christ. Donc il y aura des choses comme ça. Ils ont une sitar avec des jeunes filles délicieuses qui chantent dessus, une sitar à 10 cordes, représentant bien sûr les 10 commandements de Moïse. Tout est comme ça.
Ah oui.
Tout est comme ça. Et voilà. Rien n'est profane, rien n'est neutre, rien n'est sans symbolique. Et c'est ça qui viendront vous expliquer dans aussi une volonté simplement d'échange, de se présenter. Ce sont des gens très doux, très pieux, parfois un peu réservés, peut-être un peu secrets.
Mais là, c'est l'occasion, justement.
Et là, ils font l'effort extraordinaire de venir s'ouvrir à nous. Donc, venez nombreux.
Messieurs, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, c'est comme il dit mon frère Olivier, c'est avant tout, c'est un remerciement. C'est vrai, nous, on s'en est rendu compte en vivant notre foi donc à Sainte-Marguerite. Il y avait des choses qui étaient étranges pour ceux qui venaient régulièrement. Donc, des petites questions. Pour nous, ça ne rentre même pas dans la question. On vit notre foi.
C'est naturel pour vous.
C'est naturel. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous rentrez à l'église comme ça, comme il l'avait tout à l'heure signalé? Et c'est un ensemble de ces questions. Donc, avant d'arriver aussi à Sainte-Marguerite, on avait un peu voyagé donc, en Toulouse. C'était des questions qui étaient récurrentes. Donc, le fait de faire une exposition, le fait de montrer donc, cette église au reste, ça nous paraît un peu évident. Et donc, c'était dans ce but-là qu'on l'avait fait. Et puis après, le père Baptiste et l'ensemble donc, de paroissiens de Sainte-Marguerite, ils sont quand même très accueillant avec nous, je tiens à le dire, parce que juste pour donner un exemple, cette année, sur le calendrier éthiopien et le calendrier occidental, la fête de
le vendredi saint
et le jour de Pâques, ça tombait le même jour. Et nous, on a tendance donc à vivre notre foi comme de l'époque, on va dire.
Selon vos rites.
Et le vendredi saint, c'était une journée donc, de vénération, une journée le chemin de croix, on le vit donc, de matin au soir. Et les paroissiens, y compris donc, avec le père Baptiste et les paroissiens, ils nous ont accepté, ils ont déménagé donc, le programme qu'il y avait ce jour-là donc, à Sainte-Marguerite pour nous laisser vivre cette foi. Et ça nous a beaucoup touchés et c'est vrai. C'était depuis cette date-là, on avait dit qu'il faut quand même qu'on montre cette église, il faut qu'on dise ce que c'est. Et il y a quand même beaucoup de choses à dire, c'est vrai. C'est une église qui est ancienne, qui est riche, qui a contribué quand même pas mal de monde, que ce soit musical ou même dans l'enseignement. Donc il faut le montrer, on en montrera une partie.
Voilà, vous avez envie de partager. Pierre Blanchard?
Oui, moi, c'était pour dire que j'engage les catholiques du diocèse et peut-être des diocèses voisins à venir connaître une autre église très riche. Et il faut aussi rappeler que Jean-Paul II, Benoît XVI et François ont tous les trois rencontré le patriarche Abuna Paulos et les autres Abuna Matthias, ce qui montre qu'il y a des liens qui se sont tissés et qui sont de plus en plus forts.
Et des liens qui enrichissent mutuellement les communautés. Merci beaucoup, Mesfin Tekle Mariam, de la communauté apostolique éthiopienne Tewa Edo. Je vais y arriver, hein. Tewa Edo. Pardon, de Saint-Michel. Merci Olivier Carrero, membre de l'équipe d'animation pastorale et sacristain de l'église Sainte-Marguerite à Blagnac. Et puis Pierre Blanchard, merci, délégué du diocèse de Toulouse pour l'œuvre d'Orient. Je rappelle donc la rencontre et exposition culture et christianisme d'Éthiopie, samedi 27 de 11h30 à 17h30 et dimanche 28 septembre de 10h à 18h. C'est sur le parvis de l'église Sainte-Marguerite, avenue des Arènes Romaines à Blagnac. Merci à tous trois.
Merci.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.